France Culture.
C'est un événement qui fait parler de lui depuis sa création en 1947, à tel point que certains parlent de légende. Le Festival d'Avignon, qui se tiendra du 5 au 26 juillet prochain pour sa 79e édition, autour d'un mot d'ordre, ensemble, fait figure de modèle du genre. Si la programmation pointue en fait chaque année un haut lieu du spectacle vivant, pensé dès ses origines comme l'incarnation de l'élitisme culturel pour tous, le festival, c'est aussi l'histoire d'un succès qui se raconte en chiffres. 42 spectacles programmés pour 300 représentations, 125 000 billets délivrés pour les spectacles payants, un budget de 17 millions d'euros et des retombées économiques estimées à 50 millions d'euros l'année dernière. Et tout cela sans compter le fameux off qui a attiré 300 000 festivaliers pour près de 2 millions de billets écoulés. Et c'est ainsi que 22 jours durant, c'est toute une ville qui vit au rythme d'un festival. Et Avignon est devenu aussi, dans cette foulée, un lieu aux multiples facettes, à la fois festival mais aussi marché, voire véritable entreprise en soi. Car le Festival d'Avignon, c'est aussi l'histoire d'un vaste mouvement qui touche l'ensemble du territoire, celui d'une festivalisation qui porte en elle l'espoir d'un dynamisme, d'une attractivité et de retombées mesurables pour les territoires en monnaie sonnante et trébuchante. Mais au-delà du coup de projecteur estival, comment penser la pérennité de tels événements pour la ville qui les accueille et comment les festivals font-ils face à leur propre succès ? Ce sont toutes ces questions que pose Avignon, lieu de festival et de politique culturelle territoriale érigée en modèle, et que nous allons parcourir en direct et jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Jordan Fuentes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Etis. Vous êtes sociologue, délégué interministériel à l'éducation artistique et culturelle, et vous êtes avec nous à distance. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez été présidente de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse de 2007 à 2015. Vous avez également été, à partir de 1995, il faut le dire, un des responsables scientifiques des programmes de recherche sur les publics du Festival d'Avignon. Et vous avez dirigé Avignon, le public réinventé, le festival sous le regard des sciences sociales pour le département des études, de la prospective et de la communication du ministère de la Culture. Également avec nous à distance, Emmanuel Négrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS en sciences politiques au CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales de l'Europe latine à l'Université de Montpellier. Montpellier où vous vous trouvez donc actuellement dans les studios d'ICI Héros, et c'est Mathias Ollier qui assure le duplex. Un grand merci à lui. Et je précise, Emmanuel Négrier, que vous êtes le co-auteur avec Julien Audemars et Aurélien Jacquouane d'un ouvrage intitulé « Création et devenir des festivals en France » qui paraîtra aux presses de Sciences Po le 20 juin prochain, donc dans quelques jours.
Est-ce que vous êtes contente, vous, du festival ?
Ah, pas moi.
Non ? Pourquoi ?
Moi, c'est pas la clientèle qu'on avait il y a 15 ou 20 ans, hein, c'est plutôt pareil.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu les hippies, depuis que le festival a été mené d'une certaine façon, on n'a plus été ce que c'était au début.
Mais qu'est-ce que vous reprochez aux gens qui viennent au festival ?
Ah, ben, c'est-à-dire, de toute façon, nous, ça ne nous apporte rien, hein, c'est, ils ne nous achètent rien.
Et vous trouvez qu'ils ne sont pas propres, ou qu'est-ce que vous leur reprochez ?
Il y a des deux.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, du Festival d'Avignon, du festival d'aujourd'hui ?
Je pense que on essaie de faire un théâtre de plus en plus moderne et de plus avant qu'à l'époque de Villars, etc.
Bah, vous savez, le festival, c'est toujours un événement bienvenu, quoi. Pas de problème, c'est évident.
Donc vous, vous êtes content du festival d'aujourd'hui ?
Ben, on est content parce que d'abord, ça donne de l'animation. Puis en plus, ça fait travailler toute l'économie locale, quoi.
Et curieusement, il y a beaucoup de commerçants qui sont pas contents du festival d'aujourd'hui, qui trouvent que c'est pas du bon théâtre, qui sont pas contents.
Alors là, au point de vue culturel, là, je peux pas vous donner mon avis, parce que d'une part, ma profession m'empêche d'assister au spectacle, ce qui est dommage du reste. Vous savez que le métier d'hôtelier, si on veut bien le faire, il faut être constamment sur place. Alors là, je n'ai pas d'appréciation, là.
Enfin, globalement, c'est bien pour vous, vous êtes content.
Bien sûr, oui. C'est une période qui anime la ville, quoi, qui anime un peu... secteur, quelquefois trop même, parce que placé où je suis, là, le soir à l'horloge, quelquefois, ça dégénère. Enfin, j'espère que cette année, tout se passera bien.
Et on espère effectivement que cette année tout se passera bien. Voilà des témoignages diffusés dans Interactualité en juillet 1983. Emmanuel Négrier, un premier mot sur la façon dont on peut s'intéresser au festival en général. Il y a bien sûr l'analyse de l'évolution artistique, de la proposition culturelle en soi, ce qui va relativement peu nous intéresser ici dans cette émission d'économie, mais ce que France Culture fait très bien par ailleurs. Mais dès lors qu'on s'y intéresse justement d'un point de vue économique, sociologique, territorial, un autre cadre d'analyse émerge. Il y a bien sûr la question des retombées économiques, directes ou indirectes, c'est ce qu'on entendait dans ces témoignages. Mais vous parlez aussi d'une empreinte sociale et territoriale. Qu'entendez-vous par là ?
Alors, assez simplement, en fait, quand on parle d'empreinte territoriale et sociale, sur le plan social, on parle des projets de festivals tels qu'ils sont montés, tels qu'ils naissent sur les territoires. Et on voit qu'un festival, c'est toujours une entreprise collective, de manière quasiment majoritaire, enfin plus que majoritaire, une entreprise désintéressée sur le plan économique, avec le fameux statut associatif qui joue un grand rôle dans ce domaine. Et puis, les rencontres que produit un festival, quel que soit d'ailleurs le type de festival, produit quelque part une société. Donc, on l'a défini sur des enquêtes monographiques, par exemple sur les Eurocaines de Belfort. On voit très bien comment le public lui-même joue ce rôle de levier sociétal ou social. Mais on peut le voir aussi dans des tout petits festivals ou plus petits festivals de musique. Je pense par exemple à un festival qui se déroule dans le Tarn, les Moments musicaux du Tarn, où autour des bénévoles, des artistes, des programmateurs qui sont eux-mêmes en général bénévoles plus ou moins, se produit une société. Et territorial, c'est que tout ça a à la fois un impact sur la qualification d'un territoire, ces moments qui reviennent en permanence, qui stimulent une collectivité, mais qui ont aussi des impacts plus mesurables avec cette fameuse analyse des retombées économiques dont vous avez parlé en commençant, qui est à prendre avec des pincettes à plusieurs titres, mais qui quand même marque aussi cette vie festivalière qu'on a longtemps considérée comme absolument exceptionnelle, et qu'on commence à considérer aujourd'hui comme un acteur économique collectif.
On va revenir sur cette question des retombées, puisqu'effectivement, cela pose un certain nombre de questions, ne serait-ce que dans leur mesure, la possibilité de mesurer effectivement ces retombées-là. Ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, Emmanuel Négrier, c'est qu'il y a un peu un double mouvement. Il y a à la fois un festival qui finit par forger l'identité d'un territoire, ou en tout cas l'imprégner très fortement. Inversement, il y a aussi l'idée d'un territoire qui appose sa marque aussi sur un festival précis. Emmanuel Négrier, vous connaissez un très grand nombre de festivals, vous avez un regard, j'allais dire presque exhaustif aussi, sur ce qui se fait en termes d'offres de festivals en France. Dans cette offre-là, comment peut-on qualifier ce que fait le Festival d'Avignon, ce qu'il représente ?
Alors, pour rendre compte de la très grande diversité des festivals, on a eu recours à une analyse typologique. Et pour nous, le Festival d'Avignon fait partie de ce qu'on appelle les emblèmes. Et alors un emblème, dans le monde des festivals, il correspond à trois critères que remplit parfaitement, de mon point de vue, Avignon. Le premier critère, c'est que l'importance de ce festival en fait un moment central pour la discipline, avec une fonction de marché. Et on le voit très clairement, à la fois dans le IG, mais encore plus, je dirais, dans le OFF d'Avignon, où se produire à Avignon est un élément dans la carrière d'une œuvre, un élément très important. Le deuxième aspect, c'est le caractère massif, évidemment, et du public et de la programmation, qui distingue ces emblèmes de rendez-vous plus modestes. Et le troisième point qu'on voit également très clairement à Avignon, c'est qu'au-delà de la dimension de marché, au-delà de la dimension de programmation et de réunion publique, il y a aussi un rôle de forum. Et Avignon, c'est aussi un lieu où chaque année viennent débattre de la politique culturelle en général, viennent débattre de questions de société, des intervenants qui soit sont partisans, soit font partie de fédérations, de groupes d'intérêt, etc. Donc cette triple fonction de marché, de de rendez-vous de masse et de forum constitue, à mon avis, assez bien la notion d'emblème pour Avignon, comme pour d'autres rares festivals.
Un festival emblématique, donc, Emmanuel Etis, si on continue à poser un peu les bases, à se poser la question de ce qui fait l'identité du Festival d'Avignon parmi une offre très très diverse en France et qui, on va le voir, s'est largement multipliée ces dernières années, ces dernières décennies. Je le disais en introduction, Avignon, c'est à la fois un succès d'estime, on pourrait dire, en termes de propositions culturelles, mais c'est aussi un certain nombre de chiffres que je rappelais. Est-ce qu'on peut se dire aussi que ce qui forge l'identité d'Avignon, c'est le fait que ce soit tout simplement un festival couru, réputé, qu'il a réussi, qu'il a cette capacité à accueillir un certain nombre de visiteurs? Est-ce que c'est ainsi qu'il s'inscrit aussi dans le paysage des festivals français?
Oui, on peut le dire ainsi, et c'est inscrit depuis bien longtemps. Au moment où Jean Villard fonde le Festival d'Avignon, il faut pas oublier qu'il va essayer de poser une marque très forte. Villard, à cette époque, est le directeur du Théâtre National Populaire à Paris, et va se dire, on va profiter du temps des congés payés pour pouvoir aussi proposer des choses à ceux qui vont pouvoir partir en congés payés, c'est-à-dire une sorte de d'éducation populaire, au sens fort du mot, avec le théâtre, sur un lieu patrimonial fort, sur la National 7, on est en 1947, justement, et on voit combien ces marqueurs, qui sont des marqueurs forts, vont définir Avignon. Ça aurait pu être d'ailleurs ailleurs qu'Avignon, il y a un moment où on a hésité pour que ce soit Nîmes ou Avignon, mais vous voyez, c'est toujours le même type de concept, puisse proposer quelque chose de fort. Alors, ce qui va marquer d'ailleurs très vite le Festival d'Avignon, c'est, j'allais dire, le tri de ces spectateurs qui vont s'arrêter parce que, justement, ils sont tournés vers le théâtre, ils aiment cela, et ça va créer un effet de fidélité. Nous avons été très surpris dès la première enquête de voir des spectateurs qui viennent là depuis toujours, même les premiers spectateurs des premières éditions du Festival d'Avignon, ce qui est aussi un marqueur fort à la fois du public, mais d'une envie de retrouver une ville. D'ailleurs, on dit « on va à Avignon » pour dire « on va au Festival d'Avignon » en réalité, ce qui est un raccourci assez symptomatique de l'effet ville, de l'effet aussi matriciel que va construire ce festival dans tous les attendus emblématiques dont vient de parler Emmanuel Négrier. Il a parfaitement raison. Il faut dire que le contemporain du Festival d'Avignon, qui est le Festival de Cannes, repose absolument sur les mêmes logiques de public, d'identité, de marché, évidemment, avec des publics qui aiment à se retrouver. Avec une nuance pour Avignon, c'est vraiment la longévité dans la fidélité.
Et puis Emmanuel Etis, on voit bien, il y a cette dimension très centrée autour du public, du forum aussi que propose Avignon. On a déjà parlé de la notion de marché, on va y revenir. Et puis il y a la dimension d'entreprise. En réalité, le Festival d'Avignon est lui-même une entreprise qui fait venir de l'argent sur le territoire. Ce sont là les mots de Paul Rondin, directeur délégué du Festival d'Avignon en 2021. Emmanuel Etis, dans quelle mesure certains festivals dont en première instance celui d'Avignon, peuvent effectivement être associés à des entreprises, selon vous?
C'est une entreprise au sens où, d'abord, c'est une petite entreprise avec le personnel qui est mobilisé, qui sont de fait des grands professionnels du théâtre. Il faut quand même imaginer que, si je devais ne parler que des techniciens du spectacle à Avignon, ce sont des professionnels aguerris qui ne sont pas que des professionnels qui viennent de salles de spectacle, mais des gens qui ont l'habitude et qui ont pris l'habitude, grâce au Festival d'Avignon, de constituer une équipe qui sait travailler en plein air, ce qui est quand même une très grande particularité des techniciens d'Avignon et qui demande un professionnalisme vraiment avéré pour pouvoir avancer. Donc c'est aussi ça, cette fidélité, c'est de ceux qui font l'entreprise même du Festival d'Avignon. C'est important de parler de ces métiers du spectacle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une quarantaine d'années, à côté du Festival d'Avignon, s'est créé l'Institut supérieur des techniques du spectacle, qui est là aussi forme ces techniciens, ces régisseurs, ces directeurs techniques, avec les particularités de faire vivre en plein air, ce qui est un savoir-faire d'ailleurs français très envié à l'étranger, ce qui est aussi quelque chose qui est une compétence qui se vend en tant que telle. Donc oui, on peut vraiment parler d'une entreprise à part entière en ce qui concerne le Festival IN, le Festival d'Avignon, et évidemment toutes les petites entreprises environnantes qui sont celles des scènes permanentes, mais aussi de tout ce qui fait que la ville se transforme en théâtre, comme on a l'habitude de le voir ou de le percevoir.
Alors Emmanuel Etis, vous avez mentionné évidemment la figure de Jean Villard. Il s'exprimait, je vous propose de l'écouter, dans cette archive non datée, probablement enregistrée entre 1947 et 1953.
En ce qui concerne tout ce qui se passe autour du Festival d'Avignon, cela est très complexe. Je suis, vous le savez bien, mon cher ami, le bonhomme qui fait sur le plan artistique la chose. Je vois mal, au moment même où je suis dans le travail, puisque je suis en plein dans le travail, tout ce que peut apporter Avignon, tout ce qui gravite autour des tréteaux, Tout ce que je puis dire pour cette année, qui me paraît très important, nouveau par rapport aux années précédentes, c'est ce fait que des groupes artistiques de tous les départements français viendront vivre autour d'Avignon, même sous des tentes, pour assister chaque soir à nos spectacles. Après avoir vu nos spectacles, le lendemain matin, ils feront une discussion de ces spectacles. C'est pour nous, comédiens, metteurs en scène et organisateurs d'Avignon, une chose plus que sympathique, c'est une chose extrêmement touchante. Malgré les difficultés de la chose, de la création de la chose, du fait dramatique d'Avignon, de la création des tréteaux, de la création d'Avignon, ville dramatique, nous avons persévéré pendant 4 ans pour prouver qu'avec la bonne volonté de Français qui, avant le fait même, avant la création, ne se connaissaient pas, entre Avignonnais et Parisiens et étrangers, on pouvait créer un fait théâtral vivant, tout en empruntant, en ce qui concerne le programme, à des œuvres anciennes.
Le Festival d'Avignon, qui est donc fondé en septembre 1947 par le comédien et metteur en scène Jean Villard, que nous entendions à l'instant. Emmanuel Etis, vous avez déjà dit que toute l'ambition était aussi de proposer, on va dire, une forme d'accessibilité du théâtre en dehors de Paris, sur cette fameuse Nationale 7, sur la route des vacances, à une époque où les premiers congés payés commencent à se mettre en place. Dans quelle mesure l'ambition aussi de Villard, c'était finalement de proposer une contre-offre culturelle à ce qui se faisait à Paris? Est-ce qu'il y avait déjà une forme d'ambition de décentralisation culturelle plus ou moins assumée?
C'est vraiment, de la part de Jean Villard, une constante d'imaginer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le fondement d'une démocratie ou d'une démocratisation culturelle. C'est ce qui va le différencier. D'ailleurs, il va se faire aussi quelques ennemis dans le théâtre bourgeois, y compris vis-à-vis du Théâtre National Populaire qu'il va imposer à Paris, dans le sens où son ambition, ce qui est important, c'est de pouvoir amener tout le monde au théâtre. Il n'a eu de cesse de le répéter tout le long de sa vie. Ça va d'ailleurs le conduire aussi à un certain nombre de déceptions. Mais l'idée pour lui, c'est de travailler systématiquement à abattre les barrières de ce qui peut socialement être des barrières qui empêcheraient d'aller au théâtre. D'ailleurs, le Festival d'Avignon va très tôt s'intituler pour lui, ou pour ceux qui l'ont commenté, le festival en bras de chemise. C'est-à-dire le festival qui permet d'aller au théâtre sans forcément porter des fourrures ou des manteaux prestigieux, ou effectivement tout ce qui peut renvoyer au code bourgeois des années 1950. Et ça, c'est une obsession qui va vraiment être définitoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième obsession, c'est que pour réussir ce pari, très tôt avec le TNP et très tôt au Festival d'Avignon, l'ambition de Villard, ça va être de mettre en place des dispositifs de ce qu'on appellerait aujourd'hui effectivement l'éducation artistique et culturelle, qui permettent de la médiation vers le théâtre. Il faut qu'on puisse se pénétrer du texte, le comprendre, en débattre. Et d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre ces dernières années, il faut toujours rappeler que l'ambition de Villard, c'est de faire réfléchir, depuis des textes de théâtre, qu'il s'agisse des textes de Shakespeare ou autres, la réflexion de la modernité, de la contemporanéité, de permettre de débattre, depuis la culture, sur le devenir de la société en tant que telle. Donc vous voyez, c'est une ambition effectivement d'éducation à l'art, d'éducation par l'art, qui va se mettre en place à Avignon et qui va aussi conduire ce mouvement qui est quasiment la mythologie du festival. À l'Avignon, de voir des gens habiter en camping sur l'île de la Barthe-là, de débattre en permanence, d'échanger dans les rues, de pouvoir aussi avoir cet espace de rencontre directe, ce qui est très important à Avignon, avec les acteurs. On sait qu'on va pouvoir tomber sur Gérard Philippe et pouvoir échanger avec lui. Toute cette ambition, elle est vraiment matricielle, encore une fois, du Festival d'Avignon et de l'ambition qu'il porte, encore une fois, dans un haut lieu patrimonial, parce que découvrir le patrimoine en même temps est quelque chose qui est aussi parmi les segments qui sont fondateurs du Festival d'Avignon.
On le comprend à travers ces interactions directes et puis l'idée d'une éducation aussi au spectacle vivant, le Festival d'Avignon se pose en pionnier. Depuis Emmanuel Négrier, est-ce que l'idée a fait floresse? Dans quelle mesure finalement les festivals sont vus comme des outils, des leviers assez efficaces finalement de décentralisation? Est-ce que c'est parce qu'ils se tiennent dans les territoires que tout s'affiche pour autant cette ambition et cette dimension d'élitisme pour tous, d'éducation populaire? En fait, dans quelle mesure les pouvoirs publics, la politique culturelle de façon générale, voient les festivals comme le bras armé peut-être aussi d'une politique de décentralisation qui est appelée de ses voeux depuis un certain nombre d'années déjà?
Je prolongerai ce qu'a dit Emmanuel Etis très justement à propos de Jean Villard par une phrase que j'aime beaucoup de lui, qui est celle de ses ambitions qui consistent à proposer aux gens ce qu'ils pourraient aimer. Et tout est dans cette phrase, à mon avis, pour ce qui est de la problématique des programmateurs de festivals, d'ailleurs, comme de scènes permanentes. les organisateurs de festivals essayent de promouvoir des artistes qui ne sont pas nécessairement connus des gens. Et là, il y a effectivement un risque. Le risque est à la fois économique, il est aussi un risque culturel et presque politique, parce que les propositions des festivals doivent nécessairement laisser la place à la découverte pour des festivaliers qui ne viennent pas nécessairement au départ pour découvrir. Ils viennent, quand on fait la sociologie des nouveaux publics des festivals, un nouveau public de festival, il vient pas tout seul, au risque de...
Ah, Emmanuel Négrier, la connexion s'est interrompue. Emmanuel Etis, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a cette notion de risque très liée au public, et de fait, c'est un enjeu majeur pour le Festival d'Avignon. Avant cela, il faut tout de même rappeler, si on reste sur les figures qui ont incarné, on va dire aussi le festival, il faut rappeler que Jean Vilar meurt en 1971. Entre-temps, tout de même, est né en 1966 le fameux OFF qu'on a déjà évoqué, mais qu'il s'agirait peut-être de définir. Sous quel impulsion et dans quel contexte se crée ce OFF et à quelle demande cela vient répondre, si on peut le formuler ainsi?
Ça répond à une demande justement à la fois de notions de contre-culture, parce que là aussi, alors même que Vilar, 20 ans plus tôt, apportait une vision sociale de l'accès à la culture, une éducation au théâtre, il va lui-même devenir l'institution qu'il va falloir contrecarrer. Et c'est pour ça que ça s'appelle le OFF, c'est que il est devenu l'institution au sens le plus fort du mot, et on s'est dit qu'ailleurs, dans Avignon, au-delà de la seule cour d'honneur du Palais des Papes, il serait sans doute intéressant d'avoir d'autres propositions, l'alternative théâtrale en tant que telle, portée par des troupes plus jeunes, plus rebelles, on peut dire les choses comme ça, et c'est d'ailleurs assez fortement décrit comme ça. On est aussi dans un esprit qui est proche de celui qui va faire vivre mai 68, qui d'ailleurs va se prolonger à Avignon, et j'allais dire qu'il y a une véritable bascule qui va se produire à ce moment-là, parce que, moment important aussi, on est évidemment dans une France qui continue dans l'après-Malraux à penser que la démocratisation culturelle est quelque chose de très important, et va s'installer, fait notable, à Avignon, l'une des premières grandes enquêtes sociologiques conduites par la sociologue Jeannine Larue en 1967, enquête qui va produire ses résultats un an plus tard. Et je pense que ça va être un coup fatal à porter à l'esprit de Vilar, qui découvre, malgré lui, le fait qu'il n'a pas à la hauteur dans ses publics les nombres d'ouvriers et d'employés qu'il aurait espéré dans son effet de démocratisation culturelle. Et ça va beaucoup l'atteindre. Il va beaucoup en parler. Il va même se confier très souvent à ses proches, dont fait partie l'instituteur Paul Puot, qui va devenir lui-même directeur du Festival d'Avignon, combien il nous semble être incompris. Et ça va être quelque chose qui va permettre aussi ce développement, c'est paradoxal, mais le développement de tout le OFF d'Avignon, qui va peu à peu prendre une place considérable et jouer un rôle, lui aussi, économique un peu différent. Donc le IN va tirer le OFF, qui lui-même va tirer, aujourd'hui, on dirait, plusieurs types de OFF. Voilà, il y a vraiment des diversités théâtrales à Avignon qui sont multiples, entre le one-man show ou les créations contemporaines qui sont effectivement exigeantes, et ce dont parlait Emmanuel Négrier à tout coup, qui amène aussi à faire de véritables découvertes à Avignon.
Ce qui est intéressant, Emmanuel Etis, et j'ai lu dans un article que vous avez consacré au sujet, cette fameuse enquête de 1967 dont les résultats sont publiés en 1968 ne semble pas si alarmante que cela quand on la regarde. Le festival a alors 22 ans, 64% des spectateurs ont moins de 30 ans, 82% moins de 40 ans. On peut difficilement parler d'une forme de défaite, ça reste un public jeune. Qu'est-ce qui alarme à ce moment-là?
Il y a un article, en effet, qui est sorti par Jean Vilar, qui en fait l'introduction de cette enquête,
oui,
et qui parle de l'ombre.
Oui.
De l'ombre, et cette ombre touche vraiment ce public d'ouvriers et d'employés qui était son obsession, qui était ce pourquoi il avait construit le Festival d'Avignon. Et c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup le toucher, dans le sens où vous avez parfaitement raison. S'il avait été plus accompagné, j'allais dire, par des sociologues, on aurait pu lui dire que réellement le Festival d'Avignon est celui qui réussit, comparé à tous les autres théâtres de France, un véritable succès sur l'ouverture sociale, sur la jeunesse, sur le renouvellement, sur tout ce que vous avez cité diversité comme critère qui sont éminemment présents à Avignon et qui continuent à être présents à Avignon. C'est vraiment quelque chose de vivant, de très fort, au-delà de la fidélité en tant que telle. Donc oui, en réalité, c'est un vrai succès. Mais personne ne le lui dit. Et c'est pas du tout là-dessus qu'il va concentrer son attention, j'allais dire malheureusement, et qui lui aurait permis d'avoir ce type d'argument. Mais il faut dire aussi que le juillet 68 va être aussi dans la foulée du Cannes 68, très malmené. Emmanuel Négrier disait tout à l'heure avec justesse que c'est un lieu de débat. Ça a toujours été un lieu de débat et d'expression. Il faut imaginer qu'on va projeter au Festival d'Avignon le film de Godard qui va se faire déchiqueté en matière d'écran avec des lancers de pintades sur son écran. Enfin, il y a quelque chose qui relève vraiment d'une véritable violence, d'une expression sociale qui va se créer à Avignon, mais qu'Avignon a vu à plusieurs reprises. En 2003, la crise des intermittents du spectacle va stopper net le Festival d'Avignon. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va aussi mesurer l'impact économique réel sur lequel on va commencer à se poser de vraies questions au Festival d'Avignon. Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête ? C'est là encore une question absolument majeure qui permet de définir ce qu'est un festival et ce qu'il apporte réellement à une ville.
Et la question des publics est donc posée relativement tôt, une vingtaine d'années après les fondations, le lancement du festival en tant que tel. Jean Villard lui-même en déplore à ce moment-là qu'il n'y ait pas eu d'enquête plus tôt et qui aurait eu lieu de façon beaucoup plus régulière. Mais nous l'avons dit, la question des publics, c'est aussi une question économique, une question qui était posée à Dominique Taddeï, alors député maire d'Avignon, dans l'émission Avignon 75 sur France Culture, et c'était évidemment en 1975.
Certains Avignonnais, notamment certains de vos adversaires politiques, estiment que justement certains des programmes du festival devraient être revus, corrigés, parce qu'ils drainent un public qui, économiquement, n'est pas très, très, très rentable.
Le problème public est un problème compliqué. J'ai l'habitude d'abord de dire que ceux qui viennent au festival à l'âme de grâce 1975, ce sont les enfants de ceux qui venaient à l'âme de grâce 1947. Alors ils n'ont pas forcément les mêmes goûts. Et puis, on me dit, il y a une élite que le festival dans sa forme actuelle n'intéresse pas. Mais quelle forme actuelle ? Celle de la Comédie Française ? Parce qu'on a vu la Comédie Française il y a, je crois, 3 ou 4 ans, sous une forme par conséquent extrêmement classique. Celle, voire de l'eau. Shakespeare, qui je pense s'inscrit dans une parfaite tradition. Alors, peut-on dire élite, pas élite ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Élite financière, fortunée. Mais pensez-vous que nous remplirions pendant un mois toutes les salles du théâtre avec ce que vous voulez ou ce que l'on veut appeler cette élite ? Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour nous que des masses de jeunes, des comités d'entreprise, assiste à notre festival. Je pense qu'il est intéressant pour nous que parmi les spectateurs, 60% ou 70% aient moins de 30 ans, parce que précisément, je crois que c'est l'avenir. Et au fond, à Avignon, nous avons des hôtels de toutes catégories. 4 étoiles jusqu'à des hôtels plus modestes. Or, tous affichent complet, ce qui laisse supposer que la clientèle qui actuellement se trouve à Avignon est très diverse dans sa composition et dans sa structure sociale.
Emmanuel Etis, ce qui est intéressant avec cette réponse de Dominique Taddeï, qui est donc député maire d'Avignon en 1975, c'est que là, ce n'est plus tellement la question de la programmation culturelle ou de la curiosité que l'on pourrait générer qui se pose, mais plutôt une question fondamentalement économique. Le dilemme se pose ainsi. On peut soit attirer moins de monde, mais avec un plus fort pouvoir d'achat et donc mettre en place une programmation dite plus élitiste, ou attirer un public plus nombreux qui dépensera certes moins, mais l'effet de masse sera bénéfique économiquement dans une certaines mesures. Finalement, dès le milieu des années 70, le débat se pose en termes économiques et pas uniquement en termes de programmation culturelle. Ça, c'est ça qui intéresse les acteurs locaux.
C'est très juste. En même temps, c'est à relativiser tout de même. Avec le prix des places du Festival d'Avignon, ça reste quand même un critère objectif qui montre à quel point il y a toujours eu une préoccupation réelle d'accessibilité pour tous les publics. Tous les tarifs du Festival d'Avignon le montrent, qu'il s'agisse du in ou qu'il s'agisse du off. On est vraiment dans cette logique-là. Ce qui semble être décrit quand on parle public d'élitiste ressemblerait plutôt au type de public, j'allais dire, qu'on pourrait avoir au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, où là, effectivement, il y a un tri, un double tri. Le tri par la pratique, un. Et puis le tri aussi par le prix des places, qui n'est pas totalement le même. Ce souci d'accessibilité, il existe dans tous les festivals, y compris à Aix-en-Provence. Mais la réalité, c'est que ça a été une constante du Festival d'Avignon, y compris des spectacles de rue, y compris des spectacles gratuits. La préoccupation, c'est de faire venir le maximum de monde et diversifier les publics qui ont quand même ce point commun majeur que d'avoir un goût ou une envie ou une curiosité de découvrir le théâtre. C'est quand même le point commun qui fait que, et j'allais dire que là pour le coup la sociologie nous l'explique fort bien, on espère quand on vient en terre de festival, le festival se qualifie par sa pratique, en l'occurrence les arts de la scène, trouver des gens en face de soi qui aient le même type de goût que vous, ce qui est déjà énorme en soi. Et on le voit bien aussi dans les festivals de cinéma, par exemple, qui sont souvent basés comme sur des thématiques, de trouver des gens qui aiment le même type de film que vous, le même type de musique que vous, s'il s'agit effectivement de festivals musicaux. Moi, je peux penser aux festivals d'hiver que nous connaissons bien en Bretagne, qui sont les Transmusicales de Rennes. On voit combien les musiques électroniques font effectivement, ou les musiques contemporaines font un tri pour pouvoir faire venir un certain type de public qu'on espère là aussi ouvert et varié. C'est toujours cette même logique qui vient caractériser par l'identité, par la pratique, à la fois le festival et la ville et le lieu qui le porte.
Dès lors qu'on parle du prix des places et de l'accessibilité financière aussi de ces festivals, il faut nécessairement aborder là la question des financements du Festival d'Avignon. Je suis très contente que vous ayez mentionné le Festival d'Aix-en-Provence parce que selon un rapport de la Cour des comptes de 2023, les festivals d'Aix-en-Provence et d'Avignon ont bénéficié de plus du quart du financement du ministère de la Culture. Au nom de quoi, Emmanuel Négrier, finance-t-on ces festivals ?
Au nom du fait qu'ils sont des emblèmes. Au nom du fait que pour le lyrique, évidemment, le coût.
Ah, Emmanuel Négrier, nous vous avons à nouveau perdu dans les limbes de la connexion avec les studios d'ici Héros. Emmanuel Etis, je me retourne vers vous sur cette question des financements, mais d'autant qu'il faut souligner la spécificité aussi d'Avignon. Il faut peut-être bien préciser qu'au tout départ, en soi, le Festival d'Avignon ne bénéficiait pas encore d'aide publique franchement structurée. C'est plutôt vraiment les collectivités locales, les collectivités territoriales qui portent financièrement le projet.
Oui, c'est une logique, j'allais dire, qu'on connaît bien, qui est le résultat quand on lit le très beau travail d'Emmanuel Loyer, d'Antoine Lebec sur l'histoire du Festival d'Avignon, qui relève aussi de la manière dont les festivals peuvent naître, et ce que montrerait aussi fort bien Emmanuel Négrier qui voit combien. Et il l'a dit très justement, ça naît d'abord sous une forme associative. Moi, la chose qui nous a le plus surpris quand on a mené les enquêtes sur le public du Festival d'Avignon, c'est toujours là aussi relativement à l'histoire, ce qu'était ce festival du début, ou même les Avignonnais. Les Avignonnais dont nous vous faisiez un reportage tout à l'heure étaient à contribution au sens où les amis du festival accueillaient les troupes de théâtre chez eux. Ce qui n'est pas rien pour monter effectivement un esprit et cette cordialité qui fait qu'une ville se sente bien avec son festival. Ce qui a peut-être un peu disparu au fur et à mesure, d'ailleurs, des coopérations, des aides pouvant assurer des choses et, j'allais dire, des subventions qui sont arrivées. Et dès l'instant, qui sont évidemment une reconnaissance, l'idée de la subvention étant aussi de permettre aux spectateurs de pouvoir accéder à des prix normaux et, j'allais dire, à sa portée pour pouvoir participer au festival. Mais tout ça est une histoire qui est vraiment construite étape par étape dans le temps.
Aujourd'hui, le Festival Inn bénéficie d'un budget, je le disais, de 17 millions d'euros pour l'année 2022. Dans quelle mesure il s'agit là d'un festival qui dépend de ses ressources propres, Emmanuel Etis ?
Je crois que ces ressources propres sont autour de 30 à 40%, c'est-à-dire la billetterie. Je crois que c'est ça la proportion, mais je ne vous le garantis pas. Mais évidemment, ces ressources propres sont essentiellement générées par la billetterie, c'est-à-dire les 120 000 quelques places ou 130 000 places qui sont vendues, réservées d'ailleurs très tôt à l'avance, qui montrent aussi ce succès. Il faudrait dire que le festival commence dès l'instant où, au mois de mars ou avril, on exprime sa programmation qui permet déjà de cocher dans les cases. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre le festival officiel, le IN, et le festival OFF, où on va plutôt dans un festival de découverte sur place. Ce qui, là aussi, fait une grande différence en tant que telle. Mais oui, c'est d'abord, effectivement, ces ressources propres qui sont générées par la billetterie. Et là, je ne reparle pas des retombées économiques qui arrivent sur la ville en termes de tourisme.
Aujourd'hui, Emmanuel Etis, on a beaucoup parlé de l'évolution du public, de la façon dont on cherche à les attirer aussi. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire en termes de public ? Qui se rend à Avignon, là où Jean Villard était relativement déçu des résultats de la première enquête ? Est-ce qu'il le serait encore aujourd'hui ?
Il le serait plus vraiment si on lui expliquait comment lire des enquêtes sociologiques et ce qui pourrait attendre. En réalité, vous savez, on mesure souvent le projet culturel en fonction de l'objectif qu'on souhaitait atteindre. Il y a une très belle phrase de Jean Villard qu'il n'a eu de cesse de répéter sur la réunion, qui est d'ailleurs marqueur du Festival d'Avignon, réunir dans la travée dramatique, le petit boutiquier, en fait toutes les professions qui pouvaient être présentes. Qu'ils se rassurent, elles sont présentes. Elles sont pas forcément présentes à égale proportion, mais c'est le goût du théâtre et la curiosité qui a été développée à Avignon qui permet effectivement de rassembler tout le monde. Donc cette ambition, elle reste à Avignon. Elle demeure, elle est vraiment une constante. Et quelles que soient les municipalités qui se sont enchaînées à Avignon, d'ailleurs sur le plan politique, qu'elles soient de gauche ou qu'elles soient de droite, elles ont toujours considéré que le festival était un marqueur très fort. Je me souviens de certaines maires d'Avignon qui disaient bah, la communication d'Avignon, je n'en ai pas vraiment besoin. Le festival s'en occupe. Pour moi, c'est un marqueur, et un marqueur international. D'ailleurs, il faut pouvoir signaler que dans les publics, il y a pratiquement 12 à 13% de publics qui viennent de l'étranger, ce qui montre aussi cette notoriété internationale. Voilà, il n'y a qu'Édimbourg qui rivalise avec le Festival d'Avignon en grand festival d'art dramatique sur le plan international.
Alors, on a beaucoup parlé de la figure de Jean Villard. Emmanuel Négrier, cette figure, elle est intéressante. Bon, elle est extrêmement emblématique, comme le festival nous l'avons dit. Mais vous-même, vous vous êtes penché sur la sociologie des créateurs de festivals, à ne pas confondre avec les directeurs. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, est-ce qu'il est facile de créer un festival quand on voit le nombre de festivals qu'il y a en France par rapport à nos voisins européens? Je pense notamment à l'Allemagne ou au Royaume-Uni où ils sont au nombre environ de 2000, c'est près de 7 fois plus en France. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile quand on veut lancer son propre festival?
Alors la réponse est immédiatement non, ça n'est pas facile. Mais ça n'est pas parce que c'est difficile que ça n'est pas enthousiasmant. Et donc, la difficulté de créer un festival n'a jamais été un obstacle à l'émergence de projets. Encore aujourd'hui, on est très surpris, on a travaillé sur les profils sociologiques des créateurs de festivals, on s'est interrogé sur le mouvement de création de festivals, est-ce que finalement on n'est pas face à un tarissement aujourd'hui? Eh bien, je constate et nous constatons que le nombre de festivals qui se créent encore ou qui se présentent à des subventions publiques dans cette année 2024 puis 2025 est supérieur aux disparitions qu'on peut constater de festivals qui n'ont plus les moyens de leur projet. Donc il y a effectivement une difficulté, mais en même temps celle-ci n'enraye pas l'intérêt, je dirais, général et les intérêts particuliers à créer un festival. Ce qui émerge aujourd'hui, c'est le profil, par exemple, de l'artiste qui va créer, autour, avec évidemment d'autres amis, et souvent d'ailleurs d'autres artistes, qui va créer un festival de manière à, d'une part, rentrer dans la dimension de la diffusion, se diffuser lui-même, et inviter ses amis qui, eux-mêmes, auraient créé un festival ailleurs dans sa programmation. Donc il y a effectivement une évolution des profils. Ce qui était notre question au départ, c'était finalement, est-ce que les directeurs ou les créateurs de festivals sont des administrateurs culturels comme les autres, avec leur bagage intellectuel, leur niveau de diplôme, leur spécialisation artistique, etc. Ben non, non. Les créateurs de festivals, dans leur grande majorité, ont un profil un peu distinct des directeurs d'établissements. Ce sont des gens qui viennent beaucoup plus de la société civile. Ce sont des gens, parce que notamment il y a beaucoup de directeurs qui sont ou de créateurs qui sont bénévoles, notamment en milieu rural, qui sont des gens qui ont leur profession par ailleurs et qui s'adonnent à la création d'un festival. Et donc on trouve des profils sociaux assez diversifiés. Pour vous le dire comme ça, on était parti sur une hypothèse, c'était que finalement la différence entre un festival rural et un festival urbain, c'est que le public n'est pas le même. Alors que la direction est à peu près homogène. Eh ben, c'est exactement le contraire. Le public est à peu près le même. Finalement, on a une surreprésentation des hauts niveaux de diplôme, des classes moyennes et supérieures. On a une sous-représentation des classes populaires, même si ça varie selon le type d'esthétique, etc., etc. Mais la différence, elle est dans les collectifs qui créent un festival, les profils sociologiques des créateurs de festivals. En ville, on a plutôt des professionnels de la culture qui ressemblent un peu aux directeurs d'établissement. À la campagne, où dans les mondes ruraux, pour le dire de manière plus politiquement correcte, on a des profils beaucoup plus diversifiés, mais qui se professionnalisent à leur manière aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois, disons, pour répondre un petit peu à votre question initiale, des territoires qui influent sur la personnalité des festivals, tout comme les festivals eux-mêmes influent sur l'identité ou l'identification des territoires, et Avignon en constitue là un exemple paradigmatique.
Alors vous l'avez dit, Emmanuel Négrier, il arrive assez souvent que des bénévoles d'un festival deviennent à leur tour directeurs. C'est également le cas de Jean Pouault qui a repris les rênes du Festival d'Avignon après la mort de Jean Villard. En 1972, Sonia De Beauvais racontait l'apport de Jean Pouault dans l'émission Avignon 72 diffusée sur France Culture et qu'il a encore en 1972.
Peut-être faut-il remonter un peu dans l'histoire, parce que, au fond, tout ça a commencé très tôt avec la naissance du festival. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que les premiers débats avec des comédiens, chose qui était tout à fait exceptionnelle à l'époque, étaient organisés au cours des premiers festivals par un jeune avignonnais qui travaillait bénévolement autour du festival et qui était Paul Puot, qui depuis est devenu le responsable de l'ensemble du festival. Donc, au début, le festival a créer un nouveau rapport avec le public. Ce qui était déjà assez neuf, et cette formule des débats, des rencontres, s'est multipliée au cours des premières années. Ensuite, le festival a éprouvé le besoin de songer à tous les jeunes qui venaient et qui ne savaient pas comment se loger, comment participer à ce festival, et ça a été la création des rencontres internationales de jeunes d'abord, ensuite du centre de jeunes, et puis des centres de séjour. Et tout ça est resté à peu près au même niveau pendant un certain nombre d'années.
Emmanuel Etis, on revient là à cette dimension très forte, cette volonté de faire d'Avignon à la fois un lieu, un forum, mais aussi un moment où l'on se retourne sur les accomplissements de l'année passée en termes de politique culturelle. Est-ce qu'on peut dire qu'Avignon n'est pas qu'un lieu de culture, d'incarnation de l'état du spectacle vivant, c'est aussi un lieu hautement politique, et c'est cela aussi qui participe à son succès et à son ancrage en termes de réputation?
Bien sûr. En fait, c'est un lieu qui, traditionnellement, est devenu assez rapidement un lieu de réunion, de réflexion du politique. Et ce n'est pas pour rien. On n'a pas mentionné depuis le début de cette émission l'importance de tout ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, c'est-à-dire des journalistes, des médias, de tout le monde politique qui va venir à Avignon, des penseurs, Emmanuel Négrier le disait fort bien, des universitaires qui viennent débattre et qui sont questionnés sur toutes les questions du monde contemporain, à commencer par celle, évidemment, du devenir des politiques culturelles. La France a d'ailleurs cette particularité de devoir et de pouvoir réfléchir, et c'est une chance inouïe, à son devenir des politiques culturelles. Je crois qu'Avignon, et c'est devenu ce lieu emblématique qui en plus rassemble, puisqu'il y a des programmateurs, puisqu'il y a des villes qui viennent aussi chercher à Avignon de quoi programmer pour leur théâtre à l'année, les responsables, les directeurs des actions culturelles de chaque ville, évidemment de toutes les DRAC de France, toutes les directions régionales des affaires culturelles. Donc tout ce monde gravite à Avignon et participe à cette vie et cette réflexion et à ce monde qui est en train d'évoluer, un monde en cours. Et c'est vraiment en ce sens un rendez-vous qui est déterminant, comme les déterminants, justement, ces réunions de jeunesse dont parle Sonia De Beauvais, qui sont initiées très tôt. Aujourd'hui, les CMA continuent à être un lieu important de rencontre pour pouvoir se former au théâtre. Et c'est cette ébullition globale qui donne aussi son style, cette signature du Festival d'Avignon, qui est aussi la signature d'une ville en tant que telle. C'est parce qu'il y a tout cela que c'est devenu, ou qu'on appelle aussi Avignon, la capitale du théâtre. Et ce mot capitale, il va devenir très important. On déplace la capitale. Comme Arles va devenir la capitale de la photographie, comme Cannes va devenir la capitale du cinéma. Ce n'est pas rien que ce mot aussi, qui est ce beau glissement scénotique de la capitale qui se déplace en réalité.
Et puis nous l'avons dit, donc on comprend que le Festival d'Avignon, c'est effectivement la capitale en soi du spectacle vivant. C'est aussi un forum de discussion, un forum éminemment politique. Et puis nous l'avons dit, c'est aussi un marché en soi. C'est un des enjeux du off, comme l'expliquait Jean-Jacques Lérand, critique au Progrès de Lyon, le 1er août 1978 dans l'émission Avignon Ultrason, toujours sur France Culture.
Il y a une crise du off. Disons que l'off a moins bien fonctionné. Il a même moins bien fonctionné, je crois, économiquement que les années précédentes. Il est certain qu'il y avait auparavant une sorte de marché du théâtre dans le off, qu'il y avait beaucoup de professionnels du théâtre qui venaient chercher des créations à Avignon. Et moi, j'en ai vu un peu, mais pas beaucoup non plus. Je crois qu'il y a, il me semble pouvoir constater honnêtement qu'il y a moins de créations dans l'offre qu'il y en avait auparavant. Et il y a plus de spectacles qui viennent épuiser leur carrière ou la poursuivre à Avignon que de spectacles proprement dits de création. Mais je crois qu'il faut bien reconnaître aussi, qu'il peut-être nos camarades qui sont là le diraient plus précisément, qu'il y a des difficultés pour des compagnies maintenant à venir présenter un spectacle à Avignon, un spectacle de création, parce que ça coûte cher et qu'il y a peu de compagnies qui sont constituées assez solidement maintenant pour venir faire un spectacle de création à Avignon. Il y a crise économique aussi du festival, il n'y a pas seulement crise de création d'ordre moral et esthétique, il y a aussi peut-être le phénomène économique qui pèse assez lourdement sur le off.
Il y a crise économique aussi du festival, telle était l'ambiance à la toute fin des années 70 au off. Emmanuel Etis, de quoi parle-t-on là exactement? De quoi prend-on conscience à la toute fin des années 70, début des années 80, vis-à-vis du festival d'Avignon?
J'allais vous dire tout simplement le fait que multiplier les offres, mais je ne suis pas économiste, ne multiplie pas forcément immédiatement le nombre de spectateurs, ce qui est éprouvé assez régulièrement au Festival d'Avignon, qui a à la fois une promesse, et sans doute une promesse un peu biaisée, économiquement parlant, c'est-à-dire que beaucoup de salles s'improvisent pendant le Festival d'Avignon pour proposer des spectacles qui ne durent pas plus que quelques jours parce que, justement, il n'y a pas la fréquentation attendue, et on voit chaque année jusqu'à 20% des troupes de off qui repartent rapidement et qui plie bagage. C'est aussi ça la fragilité du Festival d'Avignon, mais aussi la promesse. Si au fond ça marche, après tout, c'est peut-être le début d'une carrière. Alors aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus que dans le off, on a des gens qui sont très confirmés, qui viennent durant le Festival d'Avignon, mais je crois que dans l'édition à venir, c'est près de 1700 spectacles qui sont attendus pour le Festival d'Avignon.
1724, pour être très précis.
Ouais. Pardon, la précision est importante, et pratiquement 140 lieux, mais vous allez sans doute me corriger, sur approximativement ce qui va être proposé cette année. Donc on mesure là la taille et l'océan de spectacles sur lequel il va falloir pouvoir naviguer, et de fait, j'allais dire, avoir les critères du choix qu'il va falloir aussi déplier sur son emploi du temps, parce qu'il va falloir, on dit toujours qu'il faut couvrir les spectacles à Avignon, on saute d'une salle à une autre, on saute d'une rue à une autre, et l'avantage c'est que la ville est petite et qu'on permet, tout ça peut se faire à pied assez rapidement.
Emmanuel Négrier, dans quelle mesure ce calcul-là finalement entre la visibilité offerte par un festival et puis les moyens qu'on doit mettre sur la table quand on est notamment une petite troupe ou une petite structure pour pouvoir logistiquement être présent, dans quelle mesure ce calcul-là finalement on le retrouve dans beaucoup de festivals, que ces festivals sont aussi perçus comme une façon d'incarner un calcul économique qui est on a peu de moyens, mais on accède à la visibilité. Est-ce que c'est aussi à cela que servent les festivals, au-delà de l'outil qu'on a déjà mentionné de démocratisation culturelle, d'attirer de nouveaux publics? C'est aussi à destination de ceux qui font l'offre?
Oui, absolument. En fait, l'explosion du nombre de festivals a pour origine, notamment dans le secteur de la musique, la baisse des autres revenus, notamment suite à l'effondrement de l'économie du disque. Avant, on passait dans les festivals pour vendre son disque. Aujourd'hui, on crée un morceau pour passer dans les festivals. Et le live, comme on le dit en français, le live a pris une place considérable dans l'économie de la culture qu'il n'avait pas, disons, il y a une vingtaine d'années. Alors ça a effectivement un mérite. C'est effectivement une des clés d'explication du succès des festivals à côté de l'affluence publique. C'est évidemment le premier point, l'importance pour le public de cette pratique, et c'est la pratique croissante la plus évidente en termes de sortie culturelle dans les analyses sociologiques collectives sur les pratiques culturelles des Français. Mais ça n'est pas un modèle pour autant, un modèle économique serein. Et il est aujourd'hui traversé par un certain nombre de menaces, au premier rang desquelles, je dirais, les menaces de retrait d'un certain nombre de collectivités territoriales qui ne veulent plus, incarner leur légitimité en soutenant la culture, mais prétendent au contraire se légitimer en tapant sur la culture et singulièrement sur les associations dont j'ai dit auparavant qu'elles étaient très nombreuses à gérer des festivals, que le modèle du festival marchand, privé, à but lucratif était extrêmement rare en France. Et donc là, il y a effectivement une sourde inquiétude qui est partagée par beaucoup de festivals pour plein de raisons. Parce que cette menace qui pèse sur l'économie du festival n'est pas qu'une menace économique. Elle a pour effet de réduire les possibilités pour un festival de prendre des risques artistiques. Ceux dont on parlait à propos de Jean Villard, précisément. De donner aux gens ce qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils pourraient aimer. Ça, ça constitue un risque qui est devenu un risque extrêmement important et presque vital pour des festivals dont, en apparence, parce que c'est festif, parce que c'est dehors, parce que c'est l'été, parce que c'est la joie, on a l'impression que ça roule sur l'or. Un festival, même un festival qui remplit à 95% sa jauge, comme on le dit, il a de plus en plus de chances d'être déficitaire à la fin. Et si les collectivités publiques, si les pouvoirs publics ne s'emparent pas de ce défi, alors, à ce moment-là, l'alternative que représente le marché et que représentent les grandes entreprises du divertissement qui pointent le bout de leur nez dans ce secteur, produiront quelque chose qui, vraisemblablement, n'aura rien à voir ni avec les ambitions démocratiques des festivals, ni avec leurs ambitions artistiques et sociales.
Emmanuel Négrier, vous avez dit que le modèle marchand privé, finalement, est encore relativement rare. Est-ce qu'une des conséquences aussi de ce retrait, notamment des subventions publiques, pourrait être de voir ces acteurs-là de plus en plus intéressés, malgré le fait que, vous le disiez à l'instant, le modèle économique des festivals est un peu par nature déficitaire? Est-ce que tout de même on observe que de plus en plus, certains acteurs voient une forme, soit davantage de bénéfices en termes d'image de marque ou en tout cas potentiellement de pérennisation en termes de retombées économiques pour le territoire? Est-ce que tout cela, ce sont finalement tout ce que sont les preuves de succès des festivals, attirent tout de même des acteurs privés?
Oui, mais la stratégie, on n'a pas le temps d'en parler, mais la stratégie des gros opérateurs privés n'est pas si linéaire ni si cohérente que ça. Par exemple, Vincent Bolloré a investi dans 4 ou 5 gros festivals de musiques actuelles, et puis finalement s'en est retiré d'un seul coup. Live Nation, qui est une multinationale du divertissement américain, a pris position sur un certain nombre de festivals, comme Mars Attack à Marseille par exemple, et puis s'en est retiré au bout de 3 ans. C'est pas si évident que ça. Pour quelle raison? On disait tout à l'heure que le festival était une entreprise, même à but non lucratif. C'est vrai, c'est une entreprise, c'est même une entreprise d'entreprise. Mais elle n'a pas besoin, elle, d'être lucrative pour permettre à des opérateurs économiques de faire leur beurre, si vous me passez l'expression, à l'occasion du festival. Et finalement, ces grands groupes se sont rendus compte qu'il valait mieux faire pression sur l'extérieur, sur la programmation, en multipliant les cachets des têtes d'affiche, en les faisant augmenter de manière extrêmement importante, cachets dont ils possèdent les catalogues, plutôt que de s'aventurer dans la gestion d'un festival qui est une affaire complexe, une économie mixte, peu rentable en soi. Et donc c'est néanmoins le modèle économique du festival, cette économie mixte, elle doit être prise au sérieux. Parce que si cette économie mixte s'effondre, alors à ce moment-là, les grands groupes commerciaux pourront prendre des positions avec leurs propres intérêts, leurs propres logiques, qui n'ont rien à voir avec celles dont on parle avec Emmanuel Etis depuis tout à l'heure, avec des conséquences, je dirais, qu'il faudra assumer sur le plan sociétal. Parce que faire société avec Live Nation, c'est pas la même chose que faire société avec le Festival d'Avignon.
Et si on en revient justement au Festival d'Avignon, Emmanuel Etis, on pourrait se dire qu'effectivement, pour l'instant, la logique n'est pas du tout celle-là, on ne l'a pas dit, mais à partir des années 80, le Festival d'Avignon se constitue en association de gestion du festival, le statut d'association. Il y a une forme de professionnalisation aussi du festival. Est-ce Est-ce que cela veut pour autant dire, Emmanuel Etis, qu'il y a une ouverture, on va dire, aux acteurs locaux et notamment à celles et ceux qui pourraient être intéressés par les potentielles retombées économiques, ou est-ce qu'au contraire, ça renforce les liens, notamment avec les politiques culturelles décidées au niveau national? Finalement, qui nomme les directeurs, par exemple, du Festival d'Avignon, et vis-à-vis de qui sont-ils redevables, vis-à-vis de qui doivent-ils rendre des comptes, entre guillemets?
Pour répondre à votre dernière question, les directeurs du Festival d'Avignon sont nommés par le conseil d'administration du festival, qui est actuellement présidé par l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Des candidatures nombreuses, souvent avec des projets à la clé, sont proposées, et c'est ainsi que sont discutées les directions du Festival d'Avignon, et j'allais dire choisies en fonction des projets, en fonction justement des directives qui sont ouvertes, et c'est ainsi qu'a été choisi le directeur actuel, Thiago Rodriguez. Mais ce choix, effectivement, est clair, et l'attention dont vous êtes en train de parler avec justesse, elle est toujours présente dans les choix du conseil d'administration. Est-ce qu'on sera toujours dans un outil de démocratisation culturelle ? Le ministère de la Culture y a une place évidemment très importante, et la ville est aussi représentée puisqu'elle co-préside le Festival d'Avignon. Donc vous voyez que même le conseil d'administration du Festival d'Avignon reflète les ambitions de ce qu'est le festival en tant que tel. Et je crois que cette préoccupation permanente de tenir, j'allais dire, tous les bouts de la corde est évidemment essentielle pour garantir la longévité d'un festival et sa nature, dont parlait Emmanuel Desgriers avec justesse. C'est évidemment un choix politique. On parlait du fait politique. Il est éminemment politique dans le sens où on espère miser dans la direction d'un festival sur justement la préservation de ce qui en fait cette entité majeure. Et j'allais dire que le sous-entendu derrière tout cela, c'est de se dire au fond, est-ce que notre pays, est-ce que ces grands festivals institutionnels doivent conserver ce signe, j'allais dire, déterminant, cardinal, qui consiste à imaginer que ici, dans ce pays, on peut grandir grâce à la culture et grâce à l'éducation. Et je crois que c'est vraiment cela aussi le signe de nos grands festivals.
Emmanuel Desgriers, est-ce qu'il faut craindre dans le contexte, dans le climat que vous venez de décrire, finalement une forme de mouvement de défestivalisation? On a parlé de ce mouvement de festivalisation depuis les années 80. On voit une amplification généralisée du nombre de festivals actifs dans tout le territoire français. Est-ce que cet engouement-là est amené à s'amenuiser, à se réduire au fur et à mesure que les subventions publiques sont de moins en moins mises sur la table? Est-ce que ce qui était vu comme un levier relativement efficace de démocratisation culturelle va finalement potentiellement perdre, on va dire, en force et en dynamisme?
Alors, vous savez, le pire cauchemar pour un sociologue ou pour un politologue, c'est de faire des prévisions. et cette prévision-là, elle a été souvent faite. Je me rappelle d'une thèse qui était soutenue en Espagne sur juste après la crise des subprimes de 2006-2008. La thèse a été soutenue en 2014 et évidemment l'hypothèse c'était qu'il y avait un effondrement du nombre de festivals en Espagne. Pas du tout. Dans la période, il y a eu énormément de disparitions de festivals, mais il y a eu encore plus de créations. Donc si je prends votre question sérieusement, parce que c'est une vraie bonne question, je dirais que oui, si jamais, alors donc peut-être il y a les leçons d'histoire, mais si jamais effectivement il y a des festivalisations, eh bien, il faudrait constater pas simplement une crise d'affection pour les festivals, mais un moment anthropologique de renversement des choses, parce que on parle de la pratique, encore une fois, de sortie qui s'est le plus développée au cours de ces dernières années jusqu'au seuil des années 2020. Si effectivement il y avait des affections des festivals, alors ça voudrait dire beaucoup de choses de la société française plus généralement, et de son rapport à la culture. Ce que je ne crois pas, pour l'instant, mais peut-être suis-je excessivement optimiste.
J'aimerais vous dire tout de suite la joie des spectateurs, parce que je ne pense évidemment pas être le seul, la joie de participer à ce festival d'art dramatique que présente Jean Villard. Chaque soir, nous découvrons en effet une œuvre nouvelle, mais nous découvrons aussi un site, un théâtre nouveau, et surtout en accomplissant de soir en soir cette promenade assez solennelle à l'intérieur de l'admirable Palais des Papes, nous avons l'impression vraiment d'en être les autres. Je crois que Jean Villard et la municipalité d'Avignon peuvent être contents. ils ont réussi à donner à ces manifestations un cachet personnel, et tel qu'ils l'ont conçu et réalisé, le Festival d'art dramatique en Avignon ne signifie pas une ou trois ou deux représentations de théâtre, mais bien une fête du théâtre. Et lorsque nous partirons après-demain, nous penserons déjà au festival de l'an prochain.
Et on se quitte sur ce reportage de 1947 qui couvrait alors la toute première édition du Festival d'Avignon, festival dont nous avons parlé tout au long de cette heure grâce à tous les deux, Emmanuel Négrier et Emmanuel Etis. Et je vous remercie infiniment d'y avoir participé à distance. Une émission qui est à retrouver sur le site de France Culture à la page d'Entendez-vous l'écho et bien sûr sur l'application Radio France.